Le capitaliste, dit-on, a payé les journées des ouvriers. Pour être exact, il faut dire que le capitaliste a payé autant de fois une journée qu'il a employé d'ouvriers chaque jour, ce qui n'est point du tout la même chose. Car cette force immense qui résulte de l'union et de l'harmonie des travailleurs, de la convergence et de la simultanéité de leurs efforts, il ne l'a point payée. Séparer les travailleurs l'un de l'autre, il se peut que la journée payée à chacun surpasse la valeur de chaque produit individuel, mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Une force de 1000 hommes agissant pendant 20 jours a été payée comme la force d'un seul le serait pendant 55 années. Mais cette force de 1000 a fait en 20 jours ce que la force d'un seul, répétant son effort pendant 1 million de siècles, n'accomplirait pas. Le marché est-il équitable? Encore une fois, non. Lorsque vous avez payé toutes les forces individuelles, vous n'avez pas payé la force collective. Par conséquent, il reste toujours un droit de propriété collective que vous n'avez point acquis et dont vous jouissez injustement. Qu'est-ce qu'une propriété? 1840. Proudhon, il se peut que nous en commentions des extraits d'ici vendredi. Pour l'instant, il est 16h, passé de 1 minute. Vous écoutez France Culture et c'est l'heure des nouvelles vagues. Avant la fin de l'émission, les nouvelles vagues passent au singulier. Pour cette rubrique, nous demandons à quelqu'un d'identifier un moment de bascule, un moment marqué par une émotion forte. C'est Alban Lefranc qui se prête à ce jeu généreux cette semaine. Aujourd'hui, il évoque sa découverte du cinéma de Maurice Pialat, cinéma auquel il consacre un court livre coédité par Helium et Actes Sud. Cela sort le 18 mars et cela s'appelle « L'amour, la gueule ouverte, hypothèse sur Pialat ». Et tout à l'heure, vers 16h45, il parlera en prenant pour exemple le film Loulou d'un Pialat filmant des figures de femmes libres. Réjouissez-vous. En 2000, Peter Watkins réalise La Commune. Regroupant plusieurs comédiens à majorité amateurs, il leur demande, plusieurs mois avant le tournage, de se documenter sur la Commune de Paris qui voit, en 1871, le peuple parisien refuser la capitulation et se révolter. Watkins filme et fait filmer les comédiens en improvisation sur ce thème historique et voit affleurer discours et réalités contemporaines des luttes sociales du début du XXIe siècle. Les passerelles idéologiques se font sans avoir été plus que cela orchestrées et le présent surgit au détour d'une réunion fictive relative par exemple à l'organisation d'une coopérative. Le film fait 5h45 dans sa première version et 3h30 dans la version remontée pour la sortie en salle en 2007. En voici un passage.
Ici, c'est une coopérative. Et avec la commune, ça va réussir. Je l'établis chez Outils, l'atelier même, tout sera à nous. Et puis, sera l'égalité. Ouais, on somme 30. Si on gagne 300 sous, ben, sera 10 sous sur chacun.
Moi, je pense qu'il n'y a plus de temps à perdre maintenant. Aussi maire qu'il faut créer une coopérative tout de suite, dans l'immédiat. Parce qu'on ne s'en sortira pas autrement.
On a besoin de ça aussi.
Il faut faire une coopérative, c'est sûr. Mais il faut qu'on se renseigne bien avant. Il faut qu'on se mette bien d'accord. Il faut que ça marche bien. Parce qu'il faut bien se souvenir de 48, tous les trois on en était. Les ateliers nationaux, il ne faut pas qu'on se laisse reprendre dans une erreur pareille. Et les coopératives, ça marchera. Ça marchera parce qu'on veut les faire et parce que tout le monde en a besoin. Et puis parce que c'est l'avenir contre le capital.
Now that I fell into your arms, my only lover, give out to give in. I search for the castle I lost. Like my mother, give wings to a stone. It's only the shadow of a cross. Ooh. Ooh. I slept on my back in the shade of champion, get chasing the dragon too far.
Exceptionnellement, on va dédier ce titre musical à toutes les oreilles qui nous écoutent aujourd'hui. Parce que pour commencer, Méchanel choisissait ni plus ni moins de vous faire entendre le titre No Shade in the Shadow of the Cross. Il s'agit d'un extrait de l'album Carrie Anne Lowell, dont la sortie est prévue le 30 mars sur Asthmatic Kitty, et c'est signé Soufiane Stevens. Les choix de Méchanel se retrouvent sur une playlist sur le site Deezer, à laquelle vous pouvez vous abonner pour mieux la retrouver, je pense. Cette playlist s'appelle Vaguelette et elle côtoie d'autres playlists musicales liées à l'univers France Culture. Et c'est France Culture que vous écoutez à 16h07, l'heure des nouvelles vagues. C'est le premier moment d'une semaine consacrée au commun. C'est ces dernières semaines de l'avoir beaucoup entendu évoquer et convoquer ce commun que nous avons eu envie de l'interroger pendant 5 jours. Il faudra dans un premier temps lui enlever l'article peut-être, et peut-être aussi lui préférer le terme anglo-saxon « commons ». La théorie des communs se tient au croisement de l'économie, de la politique, de la philosophie, du droit, et l'on peut dire qu'elle refait surface et se repense au moment de l'attribution du prix Nobel d'économie à Elinor Ostrom en 2009, d'ailleurs première femme dans cette catégorie. Dans le livre « Commun, essai sur la révolution au XXIe siècle » paru lui en 2014, les deux auteurs proposent de sortir de la logique qui ferait s'affronter bien public État et bien privé marché. Il ne s'agirait plus de désigner des biens ou des ressources pour leur qualité intrinsèque comme commun ou commune, mais de décider d'un système qui régirait la relation entre des individus égaux et des choses. Seul l'acte de désigner des communs fait exister les communs, ce qui remet au centre de la politique la décision et la coactivité. C'est parce qu'une communauté d'humains fait des choses ensemble que l'obligation du politique se fait sentir et la mise en place de règles d'utilisation aussi. Car, disent les auteurs, renoncer au communisme historique, renoncer au communisme d'État ne revient pas à renoncer à la communauté, y compris à la communauté économique. Le terme « commons » désigne alors non pas une co-appartenance ou une copropriété ou une copossession, mais un usage, une co-activité. Commun, essai sur la révolution au XXIe siècle, est paru en 2014 aux éditions La Découverte. Il est gros, mais il est très bien. Il est écrit en commun par le sociologue Christian Laval et par vous, Pierre Dardot. Vous êtes philosophe, bonjour et bienvenue.
Bonjour.
La chose importante à reconnaître, c'est que les objets du monde ont leur propre structure, leur structure singulière. À une époque, il y a quelques années, il était important de distinguer d'un côté les biens publics, de l'autre les biens privés. Et donc on avait besoin du gouvernement pour les biens publics et du marché pour les biens privés. Nous avons introduit une notion combinatoire. Un bien public est accessible à tous, à l'intérieur d'une région, mais pas soustractif. Un bien collectif et commun est aussi facilement accessible à tous dans une région, mais il est soustractif. Le poisson que j'ai pris, tu ne peux pas le prendre.
C'est Romain de Bec-de-Lièvre qui a l'honneur de traduire Elinor Ostrom, cette économiste, cette femme qui avait obtenu le prix Nobel en 2009. On va vous laisser l'honneur à vous de nous la présenter, Pierre Dardot, parce qu'évidemment, même si votre livre En commun dépasse ce propos que vient d'énoncer Elinor Ostrom, évidemment, c'est tout à fait lié. Alors, qui est-elle ?
Alors c'est une économiste qui a situé son travail depuis déjà pas mal d'années, avant même le prix Nobel, au carrefour d'un certain nombre de disciplines, et c'est important à noter, dans la mesure où dès le début des années 80, alors qu'elle était complètement à contre-courant du mainstream de l'économie politique, elle a forgé justement cette notion de bien commun, en faisant la distinction donc entre les biens communs, d'un côté les biens publics, de l'autre les biens qui sont purement privés ou privatifs, Et donc, elle a compliqué, on peut le dire, la classification qui était celle de l'économie standard à l'époque. Classification qui ne gênait pas trop, finalement, cette espèce de dualité en miroir entre l'État, justement, et le marché, entre le gouvernement comme autorité publique et puis, d'autre part, les entreprises telles qu'elles pouvaient fonctionner sur le marché. Et justement, il y a là quelque chose d'assez important et qu'il faut saluer parce que cet effort de complication a amené à réinterroger certaines catégories, en particulier certaines catégories juridiques. Alors je crois que c'est à mettre à son crédit, d'autant qu'elle a insisté beaucoup sur l'idée que ces biens-là, au-delà des critères qui ont été énoncés dans l'interview, dans l'extrait qui a été diffusé, ce sont des biens qui, justement, ne peuvent pas être complètement naturalisés. C'est-à-dire que ce qui est important, finalement, de son point de vue, c'est le fait que l'on construise un espace institutionnel à l'intérieur duquel on se donne la possibilité de prendre en charge la gestion de ces choses, de ces biens, et on le fait par une délibération continue, réactivée, renouvelée sur les règles qui permettent justement de préserver et d'entretenir ces communs. Donc il y a quelque chose d'assez novateur à l'époque, il faut encore une fois le rappeler, parce qu'en effet, vous avez tout à fait raison de le dire, ce n'est pas parce qu'avec Christian, nous entendons aller au-delà de la démarche qui était celle d'Ostrom que nous ne pouvons pas lui reconnaître rétrospectivement le mérite d'avoir été une pionnière en la matière. Au contraire, je dirais que c'est parce que nous ambitionnons d'aller au-delà que nous sommes particulièrement bien placés justement pour lui rendre hommage. Et je crois que ce qui est important, c'est cette idée de la construction d'espaces institutionnels. Voilà, il y a dans les exemples qu'elle prend des choses qui sont extrêmement diverses, puisque ça peut être un système d'irrigation, par exemple, ou un pâturage. Donc ce sont des exemples qui peuvent faire sourire parce qu'ils sont situés à ras de terre, si je puis dire. Mais ce sont des exemples qui sont importants parce qu'ils donnent tout de suite une idée de ce qu'elle entendait défaire comme catégorisation assez rigide, celle qui en tout cas valait dans l'économie de l'époque. Et je crois encore une fois que c'est vraiment quelque chose dont on peut lui faire un très grand et très large crédit.
C'est une catégorisation que vous élargissez, que vous complexifiez, que vous hybridez encore, non seulement en ne portant pas votre attention sur la qualification du bien par une sorte d'essence intrinsèque à ce bien-là, qui présiderait et qui serait premier, avant même l'élaboration des règles de l'usage et peut-être de l'utilisation de ces biens. Vous mettez d'abord l'élaboration des règles ou la décision des règles communes avant le bien lui-même. C'est-à-dire que ce serait l'espace qui se créerait ou l'espace collectif qui se créerait avant même qu'on désigne ce qui vient en circulation ou en échange.
Alors c'est pas avant, ça se fait en même temps en fait, c'est simultané, enfin en tout cas dans notre esprit je pense que nous l'entendions de cette manière-là, c'est-à-dire que vous avez l'institution d'un certain nombre de règles, la coproduction d'un certain nombre de règles et en même temps le fait d'instituer justement ce à propos de quoi les règles valent comme étant un commun. C'est-à-dire que en fait, dans ce que vous venez de dire, il y a une chose qui me semble importante, c'est que la notion de commun, en effet, ne doit pas être complètement chosifiée. C'est-à-dire que, en fait, un commun n'est pas quelque chose que l'on peut couper de l'activité qu'il prend en charge. Voilà, ça c'est peut-être important à dire pour que la clarté se fasse, parce que dans l'esprit, je suppose, de bon nombre d'auditeurs, c'est une notion qui n'est pas forcément évidente, hein, en tout cas dans l'usage que nous en faisons et que beaucoup d'autres en font aujourd'hui. Mais je crois que c'est important à préciser, parce que justement, à ce sujet-là, il y a une tendance qui est très ancienne, qui date bien au-delà du 20e siècle, ou bien en deçà plutôt du 20e siècle, du droit romain et de l'héritage du droit romain, où il y avait effectivement une catégorisation des choses en fonction de leur propriété. Alors c'était plus compliqué parce que justement il y avait des choses qui étaient réputées communes, mais elles étaient réputées communes uniquement en fonction de leur propriété naturelle. On ne savait pas exactement quel était le statut juridique qu'il convenait de leur donner dans le droit. On en faisait une sorte d'enclos comme ça, préjuridique, une sorte d'enclave naturelle. Mais les juristes romains en général étaient un petit peu embarrassés quand il s'agissait d'en traiter. Ils disaient comme ça, la res communis, la chose commune. Alors, Ostrom, c'est un petit peu différent, en ce sens que il n'y a pas une naturalisation intégrale, au contraire, puisque comme je viens de vous le dire, elle insiste sur les règles. Mais je crois que ce qui est assez important, c'est de comprendre en définitive, si on prend un exemple très simple, qu'un commun, ça n'est pas une chose physique purement et simplement. On pourrait parfaitement imaginer que, par exemple, un fleuve, comme l'Amazone, soit, comment dirais-je, considéré comme un commun, ce serait même une bonne chose à cet égard. Mais c'est pas le fleuve avec ses propriétés physiques qui constitue en lui-même un commun. C'est le fait que, justement, un collectif prend en charge, en élaborant des règles, cette chose-là comme un commun, c'est ça qui est important. C'est la dimension politique, en effet, qui est la plus importante. Et finalement, Ostrom nous a permis, dans une très large mesure, de mettre l'accent sur cette chose-là qui est pour nous la plus importante. Donc, concernant la notion de bien dont vous avez fait usage à l'instant, je crois qu'il faut, il faut peut-être justement nuancer, c'est-à-dire que, en effet, la démarche d'Ostrom est tributaire d'une certaine conception qui était celle de l'économie politique, qui consistait à ranger les biens en fonction de critères. Donc, vous avez entendu la soustractibilité, la rivalité, l'exclusion, etc. Bon, c'est la notion de bien qui nous semble en fait assez problématique et assez discutable. Pourquoi ? On peut s'entendre sur la notion de bien, parce qu'en français, comme dans d'autres langues, on peut signifier par le terme de bien des choses qui sont assez différentes. Mais, par exemple, les Grecs avaient un terme pour signifier le bien au sens de ce qui est utile, collectivement utile, et puis le bien au sens de la chose que l'on acquiert et qu'on peut aliéner sur un marché. Bon, et c'est une distinction de cette sorte-là qu'il faudrait faire, parce que il est difficile de ne pas le considérer un commun comme un bien. C'est un bien, mais ce n'est pas un bien au sens de ce que l'on peut justement être amené à échanger, à vendre comme ça sur le marché. Donc, c'est inaliénable. C'est quelque chose qui ne doit pas être l'objet d'une appropriation, pas plus de la part de l'État que de la part justement du marché. Donc pas plus une appropriation étatique ou une appropriation publique qu'une appropriation privée.
Ni individuelle.
Ni individuelle, bien sûr, mais parce que dans l'idée d'appropriation, enfin il y a quand même l'idée de propriété, il y a l'idée du propre, avec la signification quand même assez absolue et exclusive qu'il a pu prendre dans l'histoire de notre droit et de manière générale de la conception du monde qui a été la nôtre pendant des siècles. Et donc c'est pour cette raison-là que nous insistons sur le fait que les communs sont des biens au sens de quelque chose qui doit être conservé, honoré, entretenu, gardé, etc. Mais ce ne sont pas des biens au sens de marchandises. Ce ne sont pas des biens qu'on pourrait échanger. Ce ne sont pas des biens qui... Au contraire, ce sont des choses qui doivent être soustraites à la logique du commerce, de l'appropriation, de la transaction financière, etc. Donc, ce ne sont pas des biens en tant que choses susceptibles d'être achetées et vendues. Voilà.
Y compris soustraites à l'idée d'une propriété collective. Peut-être on peut revenir sur ce qui ne satisfait pas ni vous, ni Ilonor Ostrom, dans cette opposition entre le bien public administré ou produit par l'État ou protégé par l'État et le bien privé administré ou produit par le marché. Qu'est-ce qui arrive à bout de souffle dans cette opposition-là, surtout au début du XXIe siècle ?
Alors ça arrive en effet à bout de souffle, ça a épuisé historiquement tous ses effets, avec notamment l'avènement du néolibéralisme, c'est-à-dire que si vous considérez ce qui s'est passé, justement au moment où Elinor Ostrom était en train d'élaborer ces catégories, il y a quelque chose qui se passe avec Reagan et avec Thatcher, et qui est de l'ordre d'un basculement, puisque là vous avez des gouvernements qui prennent l'initiative d'expérimentation politique et sociale, qui vont justement dans le sens de l'installation de ce que nous appelons avec Christian la rationalité néolibérale. Donc on peut considérer que là vous avez un tournant. Or, ce tournant n'est pas mince, c'est un tournant qui va aboutir, même si au début, les gens, même les acteurs, n'en sont pas forcément très conscients. Mais ça va aboutir à une transformation assez radicale du fonctionnement même de l'État. Alors, il ne faut pas idéaliser l'État tel qu'il était avant ce tournant. C'était un État qui était largement bureaucratique, qui consistait donc à distribuer ou à redistribuer. Il y avait aussi les guichets de l'État-providence, avec ce que ça impliquait comme hauteur bureaucratique à l'égard des citoyens qui étaient réduits au rang de simples usagers ou de particuliers. Donc, il ne faut pas idéaliser. Mais il y a une chose qui change complètement, il y a une logique du fonctionnement de l'État qui est tout à fait différente à partir des années 80, dans la mesure où on va assister de plus en plus à la mise en place de règles qui sont celles du corporate state, c'est-à-dire justement de l'État-entreprise, de l'État entrepreneurial. Et ça, c'est un mouvement extrêmement profond, que d'aucuns ont mis beaucoup de temps à apercevoir, que certains auteurs, notamment Foucault, ont peut-être vu avant d'autres parce qu'ils ont diagnostiqué assez bien ce qui était en train de se passer.
Ce qui fait surtout qu'on ne peut pas dégager l'action de l'État ou l'activité de l'État de l'action du marché. C'est pour ça que ça arrive à bout de
Exactement.
Chose.
Tout à fait.
Ce qui est produit ou pensé à l'échelle de l'État, y compris pour des biens publics ou des services publics, se fait désormais dans une zone totalement commune avec celle du marché et du néolibéralisme.
Oui, il y a un État qui est en effet un agent, c'est un acteur néolibéral à part entière. ça qu'il faut comprendre, c'est que on n'a plus du tout affaire à l'État tel qu'il pouvait être, comment dirais-je, investi, y compris imaginairement par beaucoup de gens à une certaine époque. On a affaire à un État qui se transforme, c'est-à-dire qui intègre dans son propre fonctionnement des normes du droit privé, qui par exemple tend à faire prévaloir des règles de la contractualisation avec ses propres agents, qui tend à mettre en concurrence les services à l'intérieur même du cadre qui est le sien. Donc vous avez une coquille juridique qui est toujours conservée, qui est celle du droit public ancien, mais c'est une coquille qui est largement vide. C'est-à-dire que derrière, en fait, il y a de nouveaux contenus et de nouvelles règles qui tendent à prévaloir. Donc, dans cette perspective-là, il est évident que l'affrontement tel qu'il pouvait être classiquement monté entre l'État qui prenait en charge justement le service public à destination de tous et en le rendant immédiatement accessible, et puis d'autre part le marché qui, lui, cherchait à grignoter toujours plus en fonction de la logique prédatrice et de la logique du profit qui était la sienne, cette opposition-là, en effet, elle ne tient plus aujourd'hui, parce que c'est plus du tout un affrontement du type de celui dont on avait une idée jusqu'à justement une date encore relativement récente. C'est plus du tout ça. On a affaire à une coproduction. On a affaire à une coélaboration par les États et les grandes entreprises, hein, les firmes à l'échelle internationale, des règles qui valent. Alors des règles du commerce, des règles de la propriété intellectuelle. Les accords sur la propriété intellectuelle sont des accords qui ont été conclus et qui ont impliqué justement aussi bien les États que les entreprises. Et on est en train d'assister, avec les négociations sur le TAFTA, à quelque chose d'assez analogue, puisqu'on a des États qui, n'en déplaise à certains, sont les premiers impliqués dans cette mise au point des règles d'un arbitrage qui serait finalement un arbitrage privé, rendu par des tribunaux privés à l'échelle internationale, susceptible de contraindre les États à payer des amendes extrêmement chères à des entreprises qui se jugeraient lésées par la réglementation ou la législation en vigueur en tel ou tel État. Donc ça va assez loin.
Si l'on prend l'un des grands piliers du service public en France, et d'autant plus qu'il a été très souvent invoqué ces derniers temps, à savoir l'école, comment est-ce qu'on peut illustrer ce que vous venez de décrire là, une interpénétration ou une coproduction d'un service public qui n'est plus vraiment public et qui est comme ingéré par le néolibéralisme ou le capitalisme, dans le cas précis de l'école, puisque c'est quelque chose qui parle à tout le monde?
Alors ça parle à tout le monde en effet, et pour cause, hein, parce que normalement c'est une mission de service public qui doit garantir justement l'égal accès de tous les enfants, quelle que soit leur origine sociale, qui doit donc s'acquitter d'un certain nombre de missions fondamentales. Or, l'école, personne ne l'apprendra, je suppose, est en crise. Elle est en crise très profonde. Et elle est en crise très profonde. Alors, bien sûr, il y a un certain nombre de facteurs qui sont des facteurs objectifs que l'on doit prendre en compte, comme la massification, parce que ça n'a plus rien à voir avec l'école telle qu'elle pouvait exister à une certaine époque. Mais il y a quelque chose qui recoupe, en effet, ce que nous étions en train de dire, parce que c'est la logique néolibérale qui gagne le fonctionnement de l'école elle-même. Parce que vous avez de plus en plus des règles qui sont des règles de mise en concurrence des équipes éducatives. On a beau parler, on a beau se gargariser même parfois d'un certain nombre d'expressions type communauté éducative, il n'en reste pas moins que de plus en plus on assiste justement à la mise en place de cette concurrence entre les écoles, entre les lycées, entre les équipes éducatives à l'intérieur des lycées et de
culture
ce
du
point
résultat
de
qui est directement
avec une culture qui est en effet la culture du résultat, c'est-à-dire une culture d'entreprise, puisque finalement il n'est pas rare que souvent des interlocuteurs s'adressant à des enseignants leur disent mais où est l'obligation de résultat? Moi quand je travaille dans mon entreprise j'ai une obligation de résultat, où est l'obligation de résultat en ce qui vous concerne? Et qui ont du mal à comprendre que justement la logique de l'obligation de résultat, qui est la logique entrepreneuriale, ne peut pas s'appliquer dans l'école sous peine de menacer l'existence de l'école et de remettre en question ses missions essentielles.
En même temps, vous dites aussi qu'il ne faut pas idéaliser l'État ou le service public ou le public, la production du bien public tel que c'était avant le Thatcher-Reagan par exemple. Donc la théorie que vous élaborez, ou toutes ces pages, sont aussi écrites dans une critique de la production du bien public par l'État et par le service public. Là aussi, ça arrive à bout de souffle.
Oui.
Ça s'inscrit, enfin, votre proposition s'inscrit aussi dans une critique de ce qui a été l'espérance ou l'attente d'un bien public, d'un service public uniquement géré et créé par l'État.
Oui, tout à fait, vous avez raison. Parce que c'est le cas de l'école également. Il n'était pas rare, au contraire, il était de règle qu'on ne demande à ceux qui étaient directement intéressés jamais leur avis, c'est-à-dire que ça se faisait en effet dans une sorte de de cloisonnement bureaucratique, où il y avait un certain nombre d'acteurs qui avaient leur mot à dire, mais pas, par exemple, les élèves ou les parents d'élèves. Et ça, ce sont des choses qui, effectivement, doivent complètement changer. Parce que finalement, ce qui est en cause, c'est la logique bureaucratique qui était celle des anciens services publics. Donc vous avez d'un côté, c'est pour ça que l'alternative telle qu'on la présente est souvent assez infernale. D'un côté, vous avez les anciens services publics qui sont gérés par, disons, des règles assez bureaucratiques et même parfois très bureaucratiques. Et puis de l'autre côté, vous avez la culture d'entreprise. Et on fait comme si, finalement, la seule alternative qui pouvait se présenter aux citoyens, c'était l'alternative entre le vieux service public avec sa logique bureaucratique qui consistait à imposer sans demander leur avis à un certain nombre de personnes qui étaient pourtant directement intéressées des décisions, unilatéralement. Et puis de l'autre côté, la logique privée qui est celle de la culture d'entreprise avec l'obligation de résultat, avec la rentabilité, avec la mise en concurrence. Or, il nous semble que, justement, c'est une des raisons pour lesquelles nous avons écrit commun, c'est une alternative qui est complètement viciée. C'est une alternative qu'on doit récuser de manière fondamentale.
Et cette alternative-là, vous ne la formulez pas en tant que désignation de bien, mais en tant qu'un espace politique.
C'est évident qu'utiliser le mot communisme, c'est assez difficile après l'expérience du socialisme réel. Il faut, c'est évident, réinventer ce nom de communisme, cette réalité d'un commun qui est un commun démocratique, géré dans une manière démocratique. On a parlé de socialisme démocratique. Sera-t-il possible de parler un jour de communisme démocratique? Je ne sais pas. Moi, je préfère parler de démocratie absolue. Voilà, ça, c'est le terme spinoziste, non? Dans lequel la multitude, c'est la seule source de légitimité pour toutes les formes d'État. Mais la démocratie absolue n'est plus une forme d'État. C'est une forme de vie.
Vous écoutez France Culture, Les Nouvelles Vagues, par Marie Richeux.
Thank you.
Pierre Dardot, on va profiter de que court encore derrière nous Ligeti pour évoquer la voix de celui qu'on a entendu juste avant. C'était Tony Negri au micro de Joseph Confavreux dans des entretiens à voix nue diffusés sur France Culture en 2008. Je pense que c'était au moment de la sortie de son livre Multitude, qui termine, cet extrait termine par forme de vie. Voilà, cette proposition politique, c'est une forme de vie quand il parle d'un communisme démocratique, il me semble. Bien sûr, on ne peut pas parler de ce livre commun sans évoquer le regard, la critique, l'analyse que vous faites du communisme d'État, son refus, mais pas son refus de la communauté. Je disais tout à l'heure, en introduisant rapidement Tony Negri, que ce que vous opposez à l'opposition entre bien public État et bien privé marché, c'est un espace du commun et commun, qui est un espace politique. En quoi est-ce que c'est avant tout un espace politique, cet espace du commun ?
Alors c'est un espace politique parce que il y a dans la notion même de commun quelque chose qui implique que l'on fasse justement référence à la sphère politique, à la sphère politique au sens le plus strict du terme, dans la mesure où il s'agissait d'abord et avant tout pour les latins de désigner par là une co-obligation. Parce que vous avez dans munus, en fait dans commun, vous avez munus, qui est une racine latine qui signifie justement à la fois l'obligation et la tâche ou l'activité. Et en creusant cette idée, nous nous sommes aperçus avec Christian qu'il y avait là sans doute une vieille idée, mais une vieille idée qui était neuve à certains égards, en tout cas du point de vue de l'expérimentation politique et sociale dans notre monde, parce qu'il y avait cette idée fondamentale qu'il n'y a d'obligation politique que celle qui est fondée sur la participation à une même activité. Donc la co-obligation fondée sur la co-participation. Et ça nous semble être en effet un principe politique, sinon le principe politique par excellence. Nous avons donc considéré qu'il fallait, pour dégager ce principe politique, éviter de confondre en effet le commun tel que nous l'entendons avec ce qui s'est appelé communisme à une certaine époque. Nous consacrons un chapitre entier d'ailleurs du livre, le chapitre 2, à l'analyse des différents types de communisme, en faisant une distinction entre le premier communisme qui était un communisme d'unité de vie, alors peut-être pas de forme de vie, comme dit Tony Negri, mais enfin on n'en est pas loin, et une unité de vie qui était conçue d'abord et avant tout de manière morale, avec une communauté relativement intégrée, voire même assez fermée, et puis ensuite le communisme tel qu'il a été repensé par Marx, qui se voulait scientifique, était le communisme de l'association des producteurs, qui supposait que le capitalisme produise lui-même des formes de coopération sur lesquelles on pouvait jouer, sur lesquelles on pouvait s'appuyer justement pour aller au-delà du capitalisme d'un certain point de vue dans la même direction que lui, c'est-à-dire en accroissant la productivité, en faisant en sorte que la production soit rationnellement organisée, etc. etc. Et puis il y a un troisième communisme dont nous avons fait l'expérience tragiquement au XXe siècle, qui est le communisme d'État. Alors je comprends que Tony Negri parle de ce communisme-là en disant qu'il faut arriver à concevoir peut-être quelque chose comme un communisme démocratique, mais je crois que justement, compte tenu de notre expérience, compte tenu du bilan que nous devons faire, nous devons également assumer ce qui s'est passé, en tirer les leçons, il me semble assez difficile de continuer à parler justement en termes de communisme, parce que dans communisme, vous avez le isme final, vous avez donc ce suffixe qui indique qu'il s'agit d'un système ou d'une doctrine, donc quelque chose qui est lié de façon systématique. Alors on peut peut-être parler du communisme, par exemple, de l'intelligence, comme le fait Rancière parfois, ou du communisme des énergies, comme le faisait Jaurès, mais c'est pas la même chose. Si on parle du communisme tout court, à ce moment-là, on est obligé de prendre en charge quelque chose qui nous semble aujourd'hui dépassé et critiquable surtout, qui est l'idée que le communisme serait l'énigme enfin résolue de toute l'histoire humaine, pour reprendre la formule de Marx dans les manuscrits 1844. Donc ça, je crois qu'il faut, revenir dessus de façon critique et considérer que justement le commun, ça n'est pas le communisme, et que le commun, même dans son acception politique telle que nous le défendons, ça n'est pas la même chose que le communisme, pour une raison très simple, c'est que le fameux munus dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire l'obligation, est compris par la plupart des gens, lorsqu'on leur demande de réfléchir à ce que le terme de communisme leur dit, c'est compris de manière bureaucratique comme étant une imposition par l'État d'un certain nombre d'obligations sans contrepartie, et donc c'est en ce sens-là que le terme de communisme nous paraît en effet ne plus être de mise.
Et au systématisme et au dogmatisme, vous préférez en revanche des systèmes, parce que s'il y a deux mots qui reviennent très souvent, c'est le système et les règles. En tant que c'est parce que nous faisons ensemble, parce que nous avons envie de faire ensemble, que l'obligation du politique vient et que par là même, forcément, la question des règles se pose. Et l'élaboration d'un système de ces règles-là se pose pour jouir du commun, d'une certaine manière. Sauf que ce système-là, vous montrez combien il est toujours à négocier. De même que, et c'est peut-être assez intéressant, vous dites à la fois que le commun, c'est le bien, mais c'est aussi tout ce qui s'organise autour du bien. Ce serait comme si ce bien dont on a pris bien garde de définir au départ qu'il était inappropriable, c'est comme si les règles elles-mêmes devaient l'être inappropriables, comme si elles devaient être tout le temps en négociation. Est-ce que ça rejoindrait pas ce que dit Tony Negri sur une sorte d'absolue démocratie, d'une certaine manière?
Alors, démocratie absolue, je ne sais pas, parce qu'il a raison de signaler que c'est un terme qui est d'origine spinoziste, et c'est en effet la position qu'il défend, mais je crois qu'il faut entendre en effet ce qui s'est passé lorsque le mouvement des places, l'occupation des places dans un certain nombre de villes de par le monde a pris de l'ampleur, qui est assez récent. La dernière en date, c'est Hong Kong, bien sûr, mais je crois qu'il faut entendre ce qui s'est élevé là comme revendication, c'est la revendication de ce que les indignés espagnols ont appelé une démocratie. Démocratie réelle. Alors, démocratie réelle, ils ne disent pas démocratie absolue, ils n'utilisent pas l'expression de Spinoza, mais ils parlent de démocratie réelle. Ça entend quand même très largement, ça sous-entend en tout cas une critique de la démocratie dite représentative. C'est-à-dire qu'on en revient justement à l'idée que nous avons dégagée, c'est-à-dire l'idée du commun comme principe politique, pour une raison très simple, c'est que finalement c'est une manière de dire qu'il n'est pas permis à un petit nombre de décider pour tous. Il n'est pas permis à quelques-uns sous prétexte que ce sont des représentants de décider pour tous, dans la mesure où tous sont directement intéressés par les décisions. Ils doivent, dans une certaine mesure, y participer. On peut toujours discuter du mécanisme de cette participation, mais ils doivent être impliqués dedans. C'est ça, le principe du commun. L'idée qu'il n'y a pas de co-obligation sans co-participation. Donc, de ce point de vue-là, démocratie réelle, démocratie participative, nous insistons beaucoup sur cette notion de participation. Oui, ça nous paraît quelque chose d'absolument décisif aujourd'hui et de très très actuel. Donc, si Tony Negri veut signifier la même chose en parlant de démocratie absolue, alors à ce moment-là, nous nous entendons. Je crois qu'il faut être effectivement tout à fait à l'écoute de ces différents mouvements qui ont pu surgir. Ça n'est pas, pour nous, une façon de les idéaliser. Par exemple, si je prends les indignés espagnols, la recherche à tout prix du consensus ne nous paraît pas justement une chose louable. Enfin, je veux dire par là qu'il faut savoir justement assumer la conflictualité. Et les communs, ça n'est pas une façon d'escamoter la conflictualité. C'est une façon de la prendre en charge, ce qui est tout à fait différent. Et la meilleure conflictualité, celle qui est la plus productive, celle qui est institutionnellement et politiquement la plus prometteuse, c'est celle qui est assumée dans la coproduction de règles. C'est celle qu'on assume et qu'on cherche à dépasser dans la coproduction de règles. Ça n'est pas celle que l'on cherche à étouffer, à occulter ou à dissimuler derrière l'unanimité. Ça, c'est la pire des choses.
Ce qui pose une question d'échelle, quand vous invoquez ces occupations de place, évidemment, la question du commun, elle passe par la définition de la communauté, peut-être même de l'auto-définition de la communauté. Jusqu'à quelle échelle cette communauté-là peut se définir? Si l'on abandonne, ou si l'on a regret ou pas, la démocratie participative, elle a peut-être pour bénéfice de pouvoir faire fonctionner ça, bien ou mal, mais à une très grande échelle, puisqu'on est aujourd'hui en France plusieurs dizaines de millions. Comment, jusqu'à quelle échelle très grande, vous menez cette possibilité de désignation de la communauté et de l'exercice du commun?
Alors là, la limite, elle n'est pas définie a priori. On peut simplement, en effet, relever que dans toutes les expériences dont vous avez parlé, dont j'ai reparlé également, il est question de l'importance d'abord du local. Et pour une raison qui est fondamentale, c'est que le commun s'expérimente d'abord et avant tout localement.
Surtout si on se pose la question du co-faire ou de la co-activité, il faut quand même qu'on soit tous ensemble. Et ce tous
exactement,
ensemble.
Donc la co-participation à ce moment-là prend toute sa place. Quand par exemple les jeunes d'Istanbul ont en effet occupé le parc Gezi et la place Taksim, en se revendiquant d'ailleurs de l'héritage de la Commune de Paris de 1871, c'était pour bien signifier qu'il y avait un commun, en l'occurrence un espace urbain, un espace collectif, qui devait être pris en charge par les habitants de la ville d'Istanbul et ne pas être confisqués par le gouvernement au prétexte de réaliser des opérations commerciales plus ou moins juteuses et profitables à un certain nombre d'entrepreneurs qui étaient des amis du pouvoir. Mais je crois qu'il y a là justement quelque chose d'assez important, parce que la référence à la Commune de Paris, certains ont jugé à propos du mouvement d'occupation des places que c'était quelque chose d'assez lyrique, qui relevait du pathos, etc. Mais je ne crois pas. Je crois qu'il y a des limites, bien sûr, à ce genre de mouvement, mais il y a une revendication qui est assez fondamentale et qui rejoint en effet l'expérience qui est celle de la Commune de Paris. C'est-à-dire l'expérience, peut-être pas du fait que tous, au même titre, gouvernent exactement de la même façon, mais l'expérience d'un contrôle des citoyens et du peuple sur les gens qu'ils investissent du soin de gouverner. Ce qui est assez fondamental, ce qui est une exigence fondamentale de la démocratie. Or, la difficulté avec la démocratie représentative, c'est que plus vous franchissez les échelons et plus, justement, il devient évident qu'il n'y a plus de délibération commune, il n'y a plus de prise en charge, justement, des conflits qui peuvent se présenter par les intéressés. Il y a une façon, justement, d'exclure le premier venu. Alors là, le commun, au sens de ce qui se présente. Voilà, exactement. Et là, je crois que c'est un problème de fond aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle il y a souvent des gens qui, à gauche en particulier, sont un peu désespérés par cette espèce. C'est plus qu'un grippage des mécanismes de la démocratie représentative, c'est une véritable désactivation qui est de l'ordre de la corruption ou de la maladie. Parce que là, on va véritablement vers des choses assez terribles. Alors, on le voit avec ce qui se passe en Grèce, hein, où il faut quand même, là aussi, remettre les choses à leur place et considérer que il y a une logique un peu infernale qui consiste à dicter à un pays, malgré l'expression politique ouverte par la voie des élections, donc qui est une voie quand même assez canalisée, hein, assez canalisée. Mais remettre en cause donc ce qui a été fait comme choix, au nom de quoi ? Au nom d'un certain nombre d'impératifs, de règles d'or qui sont supposées intouchables, qui sont supposées constituer une constitution économique pour la zone de l'Europe, et qui en fait sont parfaitement antidémocratiques. Donc il est temps de revenir à un certain nombre de fondamentaux. La souveraineté populaire, je ne parle pas de la souveraineté de l'État, je parle de la souveraineté du peuple, parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de souveraineté nationale et qui n'ont en vue que la souveraineté de l'État sur le peuple. Si par exemple on considère la position du Front National et d'un certain nombre d'étatistes ou de souverainistes, ça revient à ça, c'est la souveraineté de l'État sur le peuple. Là, nous parlons de la souveraineté populaire elle-même, la souveraineté populaire qui doit s'exercer, comme elle s'est exercée effectivement pendant la Révolution française, comme elle s'est exercée pendant la Commune de Paris en 1871. Et là, en effet, ça implique la coactivité, la coparticipation. Sinon, on n'en sortira pas. Alors, la limite, c'est difficile de la tracer, mais on peut envisager des entrecroisements comme ça, d'échelons. On peut envisager une structure fédérative à l'échelle non seulement nationale, mais surtout à l'échelle internationale, qui permette à des communs de se coordonner démocratiquement sans que, nécessairement, il y ait une espèce de captation du pouvoir par un tout petit exécutif bureaucratique. En fait, c'est ça, la démocratie, c'est d'abord et avant tout le fait que les citoyens, en tant qu'usagers finalement de la chose publique, aient directement leur mot à dire parce que ça les concerne, et donc le fait d'éviter de considérer que le point de vue du technicien, le point de vue de l'expert, le point de vue du spécialiste sous prétexte de compétences supérieures est le point de vue qui doit ultimement l'emporter. Voilà, je crois qu'il faut rompre avec ça.
Quand on parle de cet espace-là, on a dit tout à l'heure qu'il s'imposait l'idée d'un système de règles. Forcément, quand on prononce ce mot-là, on ne peut pas penser, ne pas penser à la loi et au droit. Qu'est-ce que vous en faites? Et là aussi, est-ce que c'est un espace qui peut relever du commun, puisque vous dites, vous écrivez noir sur blanc que la décision même de désigner un commun fait exister le commun. Alors si la communauté s'auto-désignant décide que le droit est un commun, est-ce que ça en fait un commun élaborable par tous qui demanderait aux juristes, aux avocats, aux juges de quitter la place? Comment ça se passe?
Non, pas de quitter la place, mais ça signifie qu'en effet, la coproduction du droit ne doit pas être une affaire de spécialistes. Ça signifie par conséquent que si les spécialistes ont leur mot à dire, c'est dans la mesure où ils le font dans un cadre qui est celui de la coparticipation des citoyens. Donc ça signifie qu'on peut envisager en effet une coproduction de règles de droit qui soient beaucoup plus larges que celles qui se fait actuellement par des experts ou par des professionnels du droit. Je veux dire par là que les magistrats, au sens que l'on donne actuellement à ce terme, ont tout à fait leur rôle à jouer, bien évidemment. Mais il y a une question de fond qu'il convient de se poser, qui est la question de la production du droit par des pratiques collectives. Voilà. Et ça, ça demande d'aller au-delà de l'idée qu'il y a des professionnels de l'édiction du droit. Alors, des professionnels, non pas simplement de l'élaboration du droit, mais de son édiction. Je veux dire par là que ce ne sont pas les magistrats qui aujourd'hui font la loi, ce sont les magistrats qui l'appliquent. Donc il y a des gens qui font la loi. Or, les gens qui font la loi sont précisément les députés. Enfin, normalement, dans un régime de démocratie représentative, ça devrait être les députés. Bon, on sait que c'est de moins en moins le cas et que les exécutifs s'arrogent le pouvoir d'édicter directement des lois. Mais je crois que c'est assez important à rappeler. Donc là, ce qui est en question, ça n'est pas l'existence de la loi. Les règles de droit dont nous parlons, ce sont des lois. Elles ont force de loi, mais c'est la coproduction. C'est la manière dont la loi est produite. Voilà. Ce qui est fondamental du point de vue de la démocratie radicale, en effet, dans laquelle nous nous situons, c'est la manière dont les règles de droit se trouvent coproduites.
Est-ce qu'il y a des choses que vous ne voyez pas pouvoir être des communs ? C'est-à-dire que, bien sûr, dans ce principe-là, tout peut être désigné commun. Cependant, est-ce que vous vous êtes dit qu'il y avait des choses que non ? Ou bien, instinctivement, on ne désignerait pas comme commun, ou alors qu'il ne serait pas bon, entre guillemets, de désigner comme commun ?
Alors, il est évident que nous ne sommes pas partisans de faire que tout soit commun. Alors, il y a pourtant une citation d'Aristote que nous donnons, qui est que « entre amis, tout est commun ». Et d'un certain point de vue, on peut considérer qu'il y a une amitié civique ou une amitié politique entre les membres d'une même communauté au plan politique. Mais il n'en reste pas moins que nous ne faisons pas du commun un principe qui devrait absolument effacer détruire toute autre forme de droit, y compris la propriété sous sa forme privée. Il n'entre pas du tout dans notre perspective de dire que le triomphe du commun doit signifier l'abolition pure et simple du privé.
Donc, d'une certaine manière, ça participe de cette conflictualité
voilà,
bénéfique
exactement. Vous avez tout à fait
dont
compris.
Vous parliez tout à l'heure.
Exactement. Il faut absolument maintenir cette idée que le droit du commun auquel nous aspirons et qui nous semble devoir défendre n'est pas un droit exclusif. Ce qui a été et reste encore un droit largement exclusif, un droit absolu exclusif, c'est le droit de la propriété privée. Or, précisément, nous contestons le caractère exclusif et absolu de ce droit de la propriété privée. Mais pas au nom d'un autre droit qui serait tout aussi absolu et exclusif. Au nom du fait que, justement, il doit y avoir place pour des choses qui sont estimées ou appréciées par la communauté des citoyens comme étant absolument essentielles à leur existence, comme s'il s'agissait de besoins vitaux finalement qui étaient en jeu, comme si justement ces choses-là devaient être soustraites à l'emprise de cette propriété privée et réservées à l'usage commun. Donc vous voyez que nous sommes partisans non pas tant de la coexistence que de la conflictualité. Voilà, exactement, on peut envisager que ça soit une régulation qui fasse en sorte que le conflit entre les différents droits soit pris en charge, au lieu d'être complètement esquivé et escamoté, comme c'est souvent le cas.
Hein. Ou opposé.
Comment ?
Ou opposé.
Ou opposé, bien sûr, il peut y avoir des oppositions, et les oppositions sont parfaitement à leur place. Il faut, je crois, en finir avec une idée qui est très ancienne dans l'histoire de la philosophie politique, qui est l'idée selon laquelle tout conflit porte en lui nécessairement les germes de la guerre civile. Comme si justement l'unité devait être absolue, devait proscrire, bannir toute division, comme si la division était nécessairement quelque chose de néfaste, et comme si l'unité devait être aussi complète que possible, c'est-à-dire fusionnelle, ce qui nous fait, alors là, horreur, dans la mesure où c'est pas du tout notre idéal.
Vous écoutez France Culture, Les Nouvelles Vagues, par Marie Richeux.
16h48 sur France Culture, chaque jour à cette heure-ci ou à peu près, nous demandons à quelqu'un de sonder ses souvenirs à la recherche d'un moment partageable publiquement qui le fit basculer. Cette semaine, c'est l'auteur Alban Lefranc qui se prête à l'exercice. Il évoque pour commencer sa découverte du cinéma de Maurice Pialat auquel il consacre un court livre à paraître, coédité par Actes Sud et Helium. Il voit Pialat comme un des rares cinéastes hommes à filmer des figures de femmes libres. Un exemple, Loulou, Huppert, Depardieu, Marchand, 1980.
Tiens, t'as acheté une chaîne ?
J'écoute rien. La musique, ça me fait chier. Je mets un disque et puis je l'arrête. Enfin, tu la veux, tu la prends.
Bah où je la mettrais ?
Ouais. T'éduqueras ton mec. Tu feras écouter du Mozart. Hein ? Pendant que tu... Puis ton départ, j'ai pas changé les draps.
Pour un maniaque comme toi, ça m'étonne.
Tu vois comment on change. Tu voulais pas me croire. Tu veux boire quelque chose?
Non, non, je veux rien.
Comment c'est arrivé?
Oh, bah c'est Loulou, il a bousculé une de leurs bonnes femmes.
Bousculé? Il lui a mis la main au cul. Mais...
c'est pas une raison pour lui filer un coup de couteau, non?
T'étais pas avec lui? Alors là, tu restes comme une conne pendant que lui, il va se saouler la gueule toutes les nuits. Et puis qui passe son temps,
bah il jeûne.
Ah, bah qu'est-ce que t'en sais, puis qu'est-ce que ça change? Puisque ça t'intéresse, il me baisse par moi en rentrant, tu vois.
Bon, ça te fait jouir, hein, de me balancer ça dans la gueule.
Bah non, mais tu l'as bien cherché.
Bah si tu crois qu'il t'attend tranquillement dans son lit toute la journée pendant que tu travailles, tu te fous le doigt dans l'œil, hein.
Oh,
t'es naïve.
Mais écoute, André, mais qu'est-ce que ça peut te faire?
Bon, moi, ce que j'en dis, c'est parce que ça m'ennuie de voir une fille comme toi qui est obligée de payer pour avoir un mec, voilà. Parce que qu'est-ce que tu fais en somme d'autre que de te payer un mec?
Mais c'est faux, je me paye pas un mec. Je suis tombée sur un mec qui travaille pas, qui a pas de fric, et moi je bosse et j'ai du fric, je paye, c'est normal.
Je me souviens pas exactement, je pense que je découvre Piala plutôt à 18-20 ans, un moment où je vais beaucoup au cinéma, où le cinéma occupe vraiment une place énorme dans ma vie. Je viens de Caen et je suis arrivé à Paris, et je crois une grosse partie de mon activité consiste à regarder des films et à découvrir ces cycles de cinéma dans Paris, donc il y avait... voilà, je me souviens d'un cycle Bergman, d'un cycle Tarkovsky. Je me souviens d'avoir découvert Cassavetes aussi, ça a été des chocs successifs. Et puis à un moment, Piala, et je crois que c'était Loulou, le premier. Loulou avec Isabelle Huppert et Depardieu et Guy Marchand. Et Loulou, c'est a priori sur le papier, l'atroce et très repris et très classique, triangle amoureux. Sauf que Piala en fait quelque chose de très sidérant. Pour des tas de raisons. D'abord, je crois parce que c'est un portrait très étonnant de femme libre, à savoir Isabelle Huppert, qui se laisse pas assigner à une place, qui échappe aux catégories, qui ne se laisse pas dicter sa conduite par les hommes, qui dit aussi son désir, qui dit très tranquillement à Guy Marchand, donc qui était plutôt son compagnon, que si elle avec Depardieu, c'est simplement parce qu'il n'arrête pas. Voilà. Donc il y a vraiment cet énoncé de désir très simple, très brutal. Je pense que c'est quelque chose d'assez transgressif à ce moment-là dans le cinéma. Ce qui m'a beaucoup donc d'abord frappé, c'est une espèce de vitalité des corps. Je découvrais Piala, donc c'est après que j'ai commencé à vraiment regarder comment, essayer de comprendre comment c'était fait, mais il y avait d'abord une espèce de sidération. Et puis autre chose, je crois, que j'avais aussi perçu comme ça à l'époque, c'est une très grande attention aussi au monde social chez Piala. Parce que tout ça est inscrit dans un monde social. À savoir, voilà, c'est vraiment Depardieu qui est plutôt le loulou, hein, d'ailleurs c'est comme ça qu'il s'appelle, le loulou à la petite semaine, le petit malfrat, quoi. Comme peut être Acatone dans le film de Pasolini. Hein. Et donc il y a du temps, tout simplement, qui est disponible. Et comme le dit très bien Guy Marchand, bah, s'il a le temps de te baiser comme ça toute la journée, c'est parce qu'il a du temps. Et Huppert dit, bah oui, c'est exactement ce que je cherche. Et c'est très intéressant, ça, l'espèce de jeu qui se joue entre les trois, parce que du coup, Guy Marchand, donc qui représente plutôt le bourgeois intégré, hein, pour aller vite, hein, va essayer de ramener à son giron Huppert en la prenant par la culture, en lui disant « Alors, t'écoutes Mozart avec ton loulou, là, tu l'emmènes au théâtre, vous parlez de quoi ?» Tu lui parles de tes livres, et elle répond, mais moi, je j'ai pas besoin de parler des livres que je lis. Quand je suis avec lui, je suis très heureuse et je lis le reste du temps. Donc, il y a aussi, voilà, toute une série comme ça de signes, de tensions très finement saisies dans leur âpreté. En même temps, c'est pas du tout un film amer. C'est vraiment un film qui, pour moi, est du côté de la vitalité, de l'énergie. Autre chose, alors qui c'est du coup une chose que j'ai apprise assez tard et qui rend les choses tout à fait stupéfiantes aussi, c'est que Piala, dans ce cas, traite vraiment un matériau autobiographique. Donc ça rend les choses encore plus casse-gueule, finalement. Il avait encore plus de raisons de se planter, puisque c'est lui qui est abandonné, en fait, hein, dans le matériau autobiographique qu'il traite, c'est lui qui est abandonné. Et c'est plutôt lui qui est Guy Marchand. Et ce qui est extraordinaire là-dedans, c'est que ce qui le fascine, c'est la liberté de Huppert qui lui échappe. Il n'y a pas de... On pourrait attendre de l'amertume, on pourrait attendre un ton un peu fielleux, on pourrait attendre de la colère, et absolument pas. Et cette dimension autobiographique, qui pourrait être, a priori sur le papier, encore une fois, celle du sale petit secret, elle est
absolument pas présente finalement. Elle innerve complètement le matériau, en affect, en colère, mais elle se repère absolument pas au premier, au deuxième, ni au dixième regard d'ailleurs. Voilà, donc c'est cet ensemble de choses qui m'ont fasciné et aussi amené à découvrir le reste du cinéma de Piala, où ces tensions sont toujours prises effectivement sur le vif, avec une grande fascination chez Piala, il me semble, pour vraiment des femmes en lutte, des femmes libres de leurs désirs et des femmes qui échappent aux hommes, fondamentalement.
Pierre Dardot, c'est vous qui avez choisi ce titre-là. Enfin, en tout cas, c'était l'une de vos propositions parmi lesquelles il était évident que mon choix allait. De quoi s'agit-il ?
Oui, il s'agit d'une musique à la fois thrace et anatolienne que m'ont fait connaître des amis turcs. Voilà, pour être très précis, que j'aime beaucoup.
Peut-être on peut dire ce que c'est alors, dans ces cas-là, pour pouvoir permettre à chacun d'aller aimer beaucoup à son tour.
Alors, c'est une musique qui est constituée à partir d'un répertoire folklorique et essentiellement ici autour du thème qui est celui du mariage.
Selim Sesler. Merci beaucoup Pierre Dardot d'avoir été avec nous. Vous avez écrit En commun. On ne s'est pas attardé là-dessus, mais quand même ça aurait valu le coup. Commun, essai sur la révolution au XXIe siècle, c'était paru en 2014 aux éditions de La Découverte. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci.
Il va être 17h tranquillement sur France Culture et rien ne s'arrêtera vraiment pour les nouvelles vagues car vous pourrez réécouter cette émission sur le site franceculture.fr et toutes celles qui la précèdent aussi. Et puis on pourra aussi s'écrire sur Facebook, sur Twitter et sur franceculture.fr. Sur tous ces sites, on met des informations, nous les semons. Merci à Romain Debec de Lièvre, Inès Duperron et Claire Maillot qui pensent et préparent joyeusement cette émission avec moi. Une émission réalisée par Anne-Laure Chanel avec à la technique aujourd'hui Alexandre Dang et derrière la vitre, une petite Inès dans un instant les 5 à 7.